faisaient les Français à bord de Phobos avec les Soviétiques?
Beaucoup de choses, parce que c'était l'époque où les Soviétiques, comme toujours d'ailleurs, avaient ouvert à coopération très large, mais dans le camp non soviétique, la France avait un rôle majeur. Ensuite, à la mission Vega, qui était la mission d'exploration de Vénus, la comète de Halley, où la France était de loin le partenaire majeur, sur Phobos aussi, la France avait une grande participation, moindre que sur Vega, mais importante. La France était partante sur à la fois les expériences à bord de la sonde elle-même, qui devait à la fois regarder Mars et Phobos, par exemple le canon Ion qui devait bombarder la surface pour éjecter des particules, était fait à Orléans, dans un laboratoire du CNRS. Et on y participait à assez haut niveau. Et la France était aussi représentée dans les petits engins qui devaient se poser à la surface même de Phobos.
Alors vous auriez raison de vous poser la question, c'est vrai, s'il y avait une malédiction autour de Mars, puisque vous avez participé quand même à un grand nombre de missions qui se sont mal terminées. Certaines n'ont même pas quitté, je dirais, la banlieue de la Terre. C'est le cas de Mars 96. Mais ça va compter quand même, parce que sur Mars 96, qui est une mission absolument fascinante et ambitieuse, d'ailleurs vous la racontez aussi, vous dites finalement c'est un observatoire martien entier avec une quantité incroyable d'instruments.
C'était peut-être la plus belle exploration spatiale jamais faite, cette mission Mars 96.
Pourquoi ça n'a pas marché?
D'abord, qu'est-ce que ça aurait dû faire? Il y avait 40 expériences à bord, deux plateformes pointées, des engins qui devaient pénétrer dans le sol, des engins, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire, plus de 8 tonnes au démarrage, hein, inimaginable. Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale planétaire soviétique, devenue russe du reste, c'est le dernier étage de la fusée Proton qui n'a pas fonctionné. D'habitude, c'est à l'arrivée que ça passait mal, là c'est au lancement même. On n'est pas sûr exactement de ce qui s'est passé. Je raconte un petit peu parce que c'était compliqué à obtenir la réalité. D'abord parce qu'on ne la connaît pas forcément et ensuite elle n'est pas forcément dite. Il semble que c'est le dernier étage, ce qu'on appelle l'étage D de cette fusée Proton, qui a été construite en 4 exemplaires. Les deux premiers avaient déjà échoué. Sur cette fusée-là, c'était le troisième. Certains devaient savoir que ça ne marchait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le réservoir fuyait probablement, et au moment où il y a eu la mise à feu pour repartir vers Mars depuis l'orbite de la Terre, de ce dernier étage, eh bien, la mise à feu a marché, mais il n'y avait plus de combustible à ignifier.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on a bossé 10 ans à construire un instrument qui part sur une sonde, et puis vous assistez même de loin au lancement, et ça ne marche pas?
C'est un drame que l'on vit à tout un tas de niveaux différents. Alors bien sûr, on le vit pour soi-même d'abord quand on a un instrument à bord. On pense énormément de choses. On pense surtout bien sûr aux gens qui ont investi dans tant d'intelligence dans tout cela. On n'imagine pas à quel point c'est très contraint le spatial. Fabriquer des instruments qui vont être capables d'opérer dans des conditions tellement compliquées de température, de pression mécanique, c'est inimaginable la difficulté que c'est de réaliser des choses comme ça. Eh bien, il faut imaginer que ça ne se fait que parce qu'il y a un petit nombre de gens, des ingénieurs, des techniciens, qui mettent tout ce qu'ils peuvent avoir pour essayer de résoudre tout ça, qui ne comptent pas leurs efforts, etc. Ça ne se sait pas, mais bon, et quand on pense que tout ça se retrouve dans l'océan, alors que tout cet effort est fait que pour de la pure connaissance, il n'y a absolument aucune gratification autre que participer à une aventure extraordinaire, c'est de mieux comprendre l'univers. Donc c'est à ça que l'on pense d'abord. Et puis ensuite on pense à, surtout là dans le cas de l'Union soviétique devenue russe, à tout ce que ça a signifié pour eux. Il faut voir que c'était la dernière fois que les Russes ont essayé d'envoyer quelque chose dans l'espace interplanétaire. Ils ne sont pas repartis depuis. 96 a été pour eux réellement la fin d'une épopée qu'ils avaient eux-mêmes initiée 40 ans avant, qui a été la possibilité d'aller regarder les autres mondes. Pour eux, c'était un coup fatal, essentiellement parce qu'on a compris que s'ils n'ont pas réussi à échapper vraiment à cet échec-là, c'est que ça mettait en cause l'ensemble de la structure de leurs propres infrastructures. Ils sont en train d'essayer de repartir avec cette fameuse mission Phobos Grunt vers Phobos. C'est pas sûr qu'ils y arriveront. On espère qu'ils vont y arriver. Donc c'est ça. Il y a énormément de choses mêlées là-dedans.
C'est dans ces décombres-là qu'est née la mission Mars Express. Vous avez travaillé sur un instrument et vous vous dites c'est dommage finalement de pas trouver une solution pour y aller. Et puis l'Europe spatiale à ce moment-là peut avoir cette ambition d'envoyer un engin en dehors de notre propre système.
Oui, bien sûr. Bon, il faut voir Le choc a été absolument terrible pour tout le monde. Hein. Sur cette mission Mars 96, l'implication, en particulier des Français, a été telle qu'on a mis du temps quand même pour ces mesures en semaine pendant lesquelles on avait du mal à revenir à la surface. Puis après, vous dites, bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Et c'est vrai que comme on était, comme toujours dans le spatial, avec à notre disposition ce qu'on appelle des modèles de rechange, quand on construit quelque chose, on essaie toujours d'avoir un autre modèle qu'on peut échanger à la dernière minute au cas où il le faudrait. On se retrouvait avec des instruments qui étaient des instruments aussi performants que ceux qui auraient dû aller sur Mars, identiques en fait, qui auraient pu être échangés. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen quand même de refaire cette mission? Et quand on a réfléchi, on était un tout petit nombre en fait, en France, à essayer de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a une chance quelconque d'obtenir des Russes qu'ils repartent vers Mars? Et on s'est dit, non, bien sûr, ça n'a plus de sens, parce qu'eux n'avaient plus de mission de remplacement. On savait que ça signait en fait la fin d'une époque pour eux et que la question ne se posait pas. Est-ce qu'on avait un espoir quelconque de repartir? Est-ce qu'on pourrait ne pas gâcher totalement ces choses-là? Et quand on a fait le tour de toutes les possibilités, on s'est aperçu qu'en fait, elles n'étaient pas très nombreuses. Avec les États-Unis, qui avaient un programme très costaud sur Mars, on s'est dit jamais on n'arrivera à placer nos instruments parce que ce n'était pas dans leur tradition. Les Américains n'offrent pas volontiers des places sur leurs satellites, d'abord parce qu'ils n'en ont pas énormément, qu'ils ont eux-mêmes beaucoup d'instruments à placer, qu'ils se font chez eux. Et ce n'est pas, je dirais, dans leur trip que faire cette coopération qu'on avait initiée des années avant avec l'Union soviétique, avec la Russie. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et on s'est aperçu qu'en fait, sur une base quasiment purement nationale, française, on était capable, avec des morceaux de choses qui existaient sur des satellites d'application, des satellites de télécommunication, des plateformes récurrentes qui existaient dans l'industrie aérospatiale très performante de la France, on pourrait éventuellement dévier l'objectif de l'une de ces sondes et en faire une sonde interplanétaire. Et un petit groupe d'entre nous, on n'était pas plus que 3-4, on a essayé de regarder si ça avait un sens. Et avec une industrie particulière basée à Cannes, on s'est aperçu qu'effectivement, pour un coût très modique, on pourrait envoyer une sonde sur Mars qui essentiellement ne coûterait pas très cher et embarquerait des instruments existants. Et on a essayé de regarder si c'était faisable et on a fait un dossier très convaincant qui montrait que pour un coût très modeste, on pourrait envoyer 4 à 5 instruments existants pour avoir été fait pour cette mission Mars 96. On a essayé de le faire sur une base soit française, soit en bilatéral avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne avait fabriqué une caméra à très haute résolution qui était très utile, et l'Allemagne était intéressée potentiellement à partir avec nous, parce qu'eux aussi, ils avaient investi beaucoup dans Mars 96. Et on a fait un dossier franco-allemand montrant que c'était possible. Et pour des raisons que j'explique un petit peu dans ce livre de conjoncture, il se trouve que l'Agence spatiale européenne n'avait jamais fait de sonde interplanétaire depuis Giotto. Ils n'avaient jamais été dans l'espace interplanétaire. Et le programme de l'Agence spatiale européenne n'incluait aucune mission d'exploration vers Mars. Il se trouve qu'en même temps que Mars 96 avait échoué, les Américains ont envoyé dans l'espace le fameux Pathfinder, qui a été le retour 20 ans après Viking des États-Unis sur Mars, et c'était un succès absolument extraordinaire. Et quand en juillet 97 ils se sont posés, c'était une folie médiatique. C'était extraordinaire de voir ce petit engin descendre de son lander, aller faire des petits tours, etc. Et tout d'un coup, l'Agence spatiale européenne s'est dit « Et nous, on n'a rien, c'est pas possible qu'on ait rien. » Et tout d'un coup, ils se sont aperçus que dans les cartons, ils avaient ce projet que nous, on avait initié sur une base franco-allemande, qui pouvait devenir un projet très peu coûteux, que l'Agence spatiale européenne pouvait éventuellement introduire dans son programme, alors qu'il n'avait pas été vraiment discuté par toute la communauté. Et c'est comme ça que Mars 96 est né.
C'est marrant, c'était pas
Mars,
facile.
Mars Express.
C'est pas facile à convaincre. Même au sein de l'Agence spatiale européenne, vous décrivez une scène qu'on a tous connue. En tout cas, si on a suivi ça, c'est la communication de l'Agence spatiale qui dit les gens s'intéressent pas à la science, il faut trouver quelque chose qui permette de communiquer autour de Mars. Mars rouge égale Ferrari.
Ça, bon, c'est. Je le cite comme exemple, mais c'est vrai que c'est ni glorieux, ni peut-être que peut-être j'aurais pas dû le citer ici. C'est un
vrai décalage avec les États-Unis,
voilà,
par exemple.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les États-Unis, sur le fait qu'ils vont peut-être au-delà de ce qu'il faudrait faire pour la communication, mais je trouve que quelque part, non. Je pense que c'est à l'honneur d'un pays que d'expliquer que l'exploration, ça fait partie du patrimoine collectif et que n'y participent pas que ceux qui sont directement impliqués dans la réalisation des systèmes. C'est vraiment l'ensemble d'un processus social qui aussi inclut à un moment donné la participation à des aventures comme ça. Et le fait que les Américains en permanente communiquent sur ce qu'ils font, je crois que c'est tout à fait remarquable. On devrait le faire à toutes les échelles nationales et au niveau de l'Europe, à l'évidence. Et là, on avait matière à cela d'une manière extraordinaire. L'Europe, pour la première fois, allait voir Mars avec des instruments réellement différents de ce qu'ils volaient, avec une possibilité de faire des choses réellement. On n'avait pas vraiment envisagé que ça serait aussi fructueux que ce qu'on a observé avec Mars Express, mais ce potentiel existait et on le sentait comme tel. impossibilité d'expliquer à qui que ce soit en Europe qu'il fallait communiquer là-dessus. Surtout, n'en parlez pas. N'en parlons pas, on verra. Et il y a eu cette, il y a eu des échanges assez virulents avec les responsables de l'agence à cette époque-là pour essayer de les convaincre de faire quelque chose, qu'il n'y avait aucune raison. Il y a quelque part ce mépris que l'on sent bien en France. Il n'y a pas d'émissions scientifiques avec de grand public à 8 heures le soir. C'est absolument déplorable parce que je suis absolument convaincu que le public, comme on dit, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, le public est très avide de ce genre de choses. Il est très demandeur quelque part. On s'en aperçoit à chaque fois qu'on a la possibilité de faire des conférences. Il y a des pays comme même en Angleterre où il y a des émissions effectivement grand public, scientifiques, aux bonnes heures d'écoute et elles ont un succès retentissant. C'est extrêmement limité. Et il y a eu cet épisode effectivement où en Europe, alors qu'on voulait communiquer, comme on dit, sur notre mission Mars Express en préparation, l'agence nous dit non, il n'y a pas moyen, ça n'intéressera personne, profitons du fait que Mars est rouge. Mais pour les intéresser au fait que c'est Mars est rouge, rouge en France, en Europe, ça veut dire la vitesse, Ferrari, on va jumeler Mars Express avec Ferrari et on va envoyer sur Mars un exemplaire de la peinture rouge de Ferrari. On y a trouvé plus de mépris que d'efficacité. Et d'ailleurs, l'exemple a montré que ça s'est effectivement réalisé. Il y a eu un grand événement à Toulouse où ils ont demandé à tout le monde de venir, depuis la direction de l'ESA, la direction de Ferrari. Tous les journalistes étaient là. Bon, ça a fait un bloc retentissant pour une raison de fond, c'est qu'effectivement, les gens aiment la science et aiment qu'on leur présente pour réellement ce que cela.
Alors, revenons à la science, hein, Jean-Pierre Bibring. Mars Express, finalement. Alors, je ne sais pas très bien comment on peut le caricaturer. D'ailleurs, s'il faut le caricaturer, est-ce que c'est un géologue en orbite puisque, en fait, vous allez étudier à partir des instruments la composition minéralogique de Mars pour essayer de comprendre comment elle s'est formée.
Alors, pourquoi Mars Express, alors que c'est beaucoup plus petit que toutes les sondes qui avaient été envoyées avant, avec peu de moyens finalement, pourquoi ça a été si riche? La première chose, c'est qu'il y a 5 gros instruments sur Mars Express, sur cette sonde, qui à nouveau était pour l'essentiel, sauf un radar qui a été rajouté, qui était déjà fait avant. Ils ont la capacité d'ausculter ce qu'on appelle toutes les enveloppes de cette planète, depuis l'atmosphère lointaine, l'atmosphère proche, la surface et la sous-surface, le matériau souterrain. Et pour la première fois, on a le moyen de corréler tout cela. Dans les sondes précédentes, c'était soit de l'imagerie, soit des magnets atmosphériques. C'était très difficile de corréler les deux au même moment. Pour la première fois, on avait une sonde qui avait les instruments qui permettaient de faire ce lien. Et s'il faut caractériser Mars Express, je dirais pour ça. C'est des instruments qui sont chacun différents de ce qui était avant, mais c'est surtout le couplage entre ces instruments qui est très nouveau. Et alors c'est vrai que parmi ces instruments, il y en a un qui n'avait jamais volé avant sur aucune des sondes, qui est ce qu'on appelle un imageur spectral. C'est quelque chose qui couple de l'imagerie à cette capacité qu'on a d'avoir accès à la composition à distance en travaillant dans un domaine spectral particulier qui est l'infrarouge, domaine dans lequel tous les minéraux de surface ont une signature particulière, toutes les glaces ont une signature particulière. Par exemple, quand vous voyez quelque chose qui brille, vous savez que c'est de la glace, vous ne savez pas que c'est de la glace d'eau, de la glace de CO2 ou de CH4. Dans l'infrarouge, vous le voyez. Et donc, on a un instrument qui est en orbite, et donc, comme il est en orbite, profitant de la rotation de la planète, il finit par couvrir toute la planète, est capable sur chaque petite parcelle, parce qu'on a une bonne résolution à la surface, de la surface de Mars, quelques centaines de mètres, d'avoir accès à la composition. Et pour la première fois, on a pu comprendre ce que sont les givres, par exemple, et regarder le cycle de l'eau et du gaz carbonique, et voir comment ça varie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, avec les saisons, est-ce qu'il y a des glaces pérennes, de quoi elles sont faites, etc. Et en plus de ça, cet appareil a quelque chose de tout à fait particulier, c'est dès qu'il y a de l'eau, sous quelque forme que ce soit, et même pas seulement de l'eau, mais le radical OH lui-même, on le voit. C'est impossible de se cacher en infrarouge si on a de l'eau. Sous quelque forme que ce soit, on le voit, que ça peut être un nuage de la vapeur, du givre, de l'eau de structure dans un minéral, de l'eau absorbée à la surface. Et non seulement on le voit, mais on fait la différence dans toutes ces formes. Si bien que si vous avez un givre d'eau qui est là, on le voit. Dès que le givre disparaît, on le voit aussi, on voit qu'il a disparu, et on voit ce qu'il y a en dessous. Et s'il reste de l'eau absorbée à la surface, on va le voir, et on va voir sous quelle forme elle l'est. Et c'est comme ça que pour la première fois, on a pu essayer de regarder où il y a et où il y a eu surtout de l'eau à la surface de Mars. Parce qu'on peut voir le cycle contemporain de l'eau et on peut voir le cycle ancien de l'eau. Puisqu'on peut voir des minéraux qui ont été hydratés très tôt dans l'histoire. Comment on sait que c'est très tôt? Par le contexte dans lequel on voit. Parce qu'on voit des strates et on voit que certains éléments hydratés ne sont que dans terrains très cratérisés, très anciens. Qu'en revanche, quand de la lave, même très ancienne, a recouvert ça, c'est de la lave qui a été extrêmement sèche, et on le voit. Donc on peut reconstituer l'histoire de la planète, et surtout l'histoire aqueuse de cette planète. Et ça, c'est effectivement un très grand pas.
Et ça n'avait jamais été fait, c'est-à-dire un instrument multispectral qui permet de comprendre que les minéraux signent ce qui s'est passé à la surface et de savoir où se trouve l'eau en ce moment même.
Non, ça n'avait jamais été fait de cette manière-là. Il y avait déjà eu un instrument qui s'appelle TESS, qui travaille dans l'infrarouge lointain, qui avait cette ambition, mais qui n'avait pas réussi réellement à faire cette cartographie, d'abord parce qu'il n'avait pas une très bonne précision de détails au sol, mais surtout parce que le domaine spectral qu'il avait choisi n'est pas du tout diagnostique, et très peu en tout cas diagnostique. Il faut dire, sans vouloir en rajouter sur cette question, si ça n'a pas été fait, ce n'est pas que l'idée manquait, parce qu'il y avait longtemps, en particulier aux États-Unis, qu'ils savaient que c'était un domaine et un type d'instrument qu'il fallait faire. Les premiers imageurs spectraux ont été conçus aux États-Unis, et bien ceux qui sont vraiment les parents de cela ont été très dépités parce que leurs instruments n'ont jamais pu être embarqués. Il y a eu une sous-estimation de la part de la NASA de l'importance de ce genre de choses. Mais il faut dire aussi que ce sont des instruments très difficiles à faire. Et si en Europe on a été capable de le faire, c'est que grâce à la coopération avec l'Union soviétique d'abord, puis avec la Russie, on a eu la capacité de développer des centres d'expertise en instrumentation. L'Europe, et la France en particulier, par cette coopération, a acquis réellement une expertise dans l'instrumentation qui est reconnue partout dans le monde aujourd'hui. On n'avait pas la capacité d'envoyer nos engins ailleurs. C'est pour ça qu'on coopérait avec la Russie, qui eux avaient les satellites et les vecteurs, mais nous on faisait des instruments dessus. C'est pour ça que c'est une coopération réellement mutuellement intéressante. Et on a acquis grâce à ça, dans un petit nombre de laboratoires en France, il y en a une dizaine seulement, de laboratoires de recherche. On a, en partenariat avec bien sûr notre agence spatiale qui est le CNES et l'industrie aérospatiale, acquis cette capacité à fabriquer dans des enveloppes de masse extrêmement réduites, à nouveau dans des environnements, pour travailler dans des environnements extrêmement contraints, de fabriquer des instruments d'extraordinairement haute performance. Il y a un imageur spectral qui travaille dans l'infrarouge, ces mots-là comme ça bout à bout ne veulent pas dire grand-chose, mais il faut être capable de fabriquer des images et sur chaque pixel, sur chaque élément de cette image, avoir une troisième dimension qui nous donne la composition, c'est-à-dire faire de la spectroscopie. Quand vous avez un télescope, c'est facile de faire un spectromètre, c'est facile de faire de l'imagerie. Coupler les deux, c'est extrêmement compliqué. Et bien voilà ce que font nos imageurs spectraux, c'est qu'ils couplent la capacité d'imagerie à la capacité de spectroscopie sur chaque élément d'image. Et en plus, ils le font dans un domaine spectral qui est l'infrarouge, qui est extrêmement compliqué parce que dans l'infrarouge, il faut que les détecteurs soient refroidis à basse température, il faut que les instruments soient refroidis à basse température, donc il faut mettre de la cryogénie active embarquée. Pamp Omega est le premier instrument qui a deux systèmes cryogéniques actifs embarqués. Il y a des machines cryogéniques avec de l'hélium embarqué qui refroidit nos détecteurs actuellement depuis 5 ans.
Vous citez l'ancienne américaine « Follow the water », suivez l'eau. Vous avez suivi l'eau aujourd'hui. Où se trouve-t-elle sur Mars?
Alors d'abord, ils avaient comme objectif de suivre l'eau puisque c'était leur mot d'ordre. Et si je me permettrais de dire à ce moment-là que c'est toujours mauvais de fixer un objectif à une mission et un instrument, parce que si on veut faire cela et si on ne le trouve pas, on est en situation d'échec. Nous, on n'a jamais eu l'objectif de suivre l'eau. On avait l'objectif d'essayer de comprendre l'évolution de cette planète par la composition que l'on voyait à distance. L'un des sous-produits, je dirais, de notre exploration, c'est qu'on a effectivement trouvé des matériaux hydratés, mais ce n'était pas l'objectif premier. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui donne la richesse de tout ce qui a été trouvé par cette mission, c'est que ce n'était pas... c'est pas qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, c'est qu'on a trouvé des choses pour l'essentiel qu'on ne cherchait pas, dont l'histoire de l'eau précisément. Et si on avait conçu des instruments pour aller chercher l'eau au sens où les gens l'entendaient avant, c'est-à-dire aller en particulier rechercher l'eau dans les endroits où on pensait qu'elle avait coulé, eh bien on aurait fait comme tout le monde avant, c'est-à-dire qu'on aurait, ça aurait été un échec, parce que l'eau ne se trouve pas essentiellement dans les endroits où les gens l'ont prévu. À nouveau, la rouille en particulier n'est pas une rouille hydratée. C'est en faisant la cartographie complète de l'ensemble de ce qui recouvre actuellement la surface de Mars qu'on a mis en évidence les phases hydratées de cette planète et l'évolution d'environnement qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu de l'eau stable et qu'ensuite, elle a disparu. À nouveau, on le voit pour les époques récentes par des phases de glace et de givre et pour les phases anciennes par des phases minérales. L'évolution de l'environnement s'est soldée par des minéraux d'altération très différents au cours du temps. Pour dire les choses en très peu de temps, au démarrage, il y avait suffisamment d'eau probablement à haute température, pendant des temps suffisamment longs, on va dire des millions d'années vraisemblablement, pour que les roches volcaniques, qui étaient des roches qui dominaient, puisque la croûte initiale s'est refroidie, aient pu barboter longtemps dans cette eau, et ça a donné la même chose qu'on observe sur Terre, c'est-à-dire que quand vous avez des roches volcaniques qui barbotent dans de l'eau, on a des argiles. Ces argiles ensuite ont été, dans une deuxième étape, entièrement recouverts par la fin du bombardement de cette planète. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que l'ère pendant laquelle l'eau était stable était incluse dans l'ère de bombardement primordial. On n'a pas pris la mesure de ce qu'a été cette ère pour l'ensemble des planètes, y compris la Terre, qui a duré 600 millions d'années, mais d'une manière qui a évolué dans le temps. Il y a eu un fort bombardement d'abord, puis ça a été calme. Période pendant laquelle, sur Terre d'ailleurs, les océans sont apparus. Puis il y a une deuxième phase de bombardement très intense, il y a seulement 4 milliards d'années, c'est-à-dire 500 millions d'années après la première, pendant laquelle beaucoup de choses ont disparu. Sur Terre, les océans se sont maintenus. Partout ailleurs, cette deuxième phase a été létale, probablement. Et ensuite, il y a eu sur Terre, sur Mars, une phase très particulière qui a été les premières vastes éruptions volcaniques qui ont en particulier conduit à la formation de ce qu'on appelle le complexe de Tarsis, un énorme dôme de 5000 km de large, 5 km d'altitude. C'est l'événement volcanique majeur. Eh bien, on a montré que cet événement volcanique majeur est arrivé après l'arrêt de la dynamo magnétique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce couplage entre l'arrêt de la dynamo et ce fort dégazage qui a lié l'éruption volcanique de Tarsis a fabriqué un changement climatique global de Mars. Mars a eu un changement climatique auquel la Terre a échappé. Et c'est ce changement climatique qui a fait que l'eau qui était stable avant a disparu de la surface de Mars. Une partie est rentrée dans le sol, une partie a disparu de la planète. Et ce qui est rentré dans le sol, au bénéfice de cette éruption volcanique, est ressorti sous forme de grandes effluves d'eau qui ont fabriqué les fameux sulfates que Opportunity a découvert et qu'on a aussi découvert dans les régions liées à Opportunity, Terra Medinani, mais dans beaucoup de terrains qui sont directement liés précisément à l'éruption de Tarsis ou à la formation de Tarsis. Ce que l'on a montré, c'est que cet deuxième épisode où de l'eau était présent à la surface de Mars est un épisode très différent du premier parce qu'à ce moment-là, l'eau n'était plus stable. Donc il y a eu de vastes arrivées d'eau qui ont cimenté ces grands dépôts de sulfate que Opportunity a mis en évidence. Mais ce n'est pas des phases qui étaient très intéressantes pour l'émergence du vivant parce qu'elles ne sont pas restées très longtemps à la surface. L'eau a immédiatement disparu de la surface.
Donc il y a eu une période pendant laquelle, finalement, Mars a été une planète bleue. Donc c'est avant ce grand bombardement.
Entre les deux premières phases de bombardement, je dirais, c'est-à-dire après la première phase de bombardement liée à l'accrétion planétaire, l'arrêt de la dynamo, peut-être 100-200 millions d'années après que la planète soit formée, il y a toutes les raisons de penser que Mars a été une planète recouverte d'un océan.
Vous le datez de...
Je dirais les premières dizaines ou centaines de millions d'années après la formation, d'accord. Mais ça s'est arrêté il y a plus de 4,2 milliards d'années vraisemblablement.
Et donc le principe de l'exploration aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller explorer ces terrains, en tout cas ceux de cette époque-là, puisqu'ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas été érodés, il n'y a pas eu de tectonique des plaques qui les a fait disparaître. Essayer de se poser dans ces endroits, essayer de voir si à ce moment-là, finalement, il n'y a pas pu y avoir une chimie prébiotique ou peut-être même de la vie.
Voilà. C'est ça qui est remarquable avec ce qui a été obtenu par Mars Express d'abord et qui a été confirmé par la mission MRO, qui est toujours aussi comme Mars Express en opération actuellement. C'est vraiment quelque chose de très contemporain. On est en train d'explorer cette phase-là. On découvre qu'il y a actuellement à la surface de Mars des terrains qui datent de cette époque-là, qui à nouveau ne sont pas là où on pensait qu'ils étaient, ils sont dans les terrains très cratérisés, qui sont encore présents à la surface de Mars. Ils ne sont pas très répandus parce que la deuxième phase de bombardement les a essentiellement recouverts, mais par des processus d'érosion qui sont assez miraculeux, je dirais, à la surface de Mars, des érosions à la fois par impact et par le vent, certains de ces terrains, qui étaient initialement donc source de cette altération par de l'eau, sont revenus à la surface. Et on les voit précisément par la présence de ces argiles.
Et ils sont accessibles.
Et ils sont accessibles. Et il y en a même qui sont à altitude suffisamment basse pour que la pression atmosphérique permette de s'y poser relativement calmement. Eh bien, c'est ça l'objectif qu'on se fixe maintenant. Et je crois qu'on a convaincu la NASA de cela, puisque les missions en préparation, en particulier la grande mission qui s'appelle MSL, qui aura un nom Curiosité, mais qui veut dire Mars Science Laboratory, qui devait d'ailleurs partir en 2009 et qui va partir en 2011, elle cherchait son site d'atterrissage. Et tout le monde est d'accord maintenant que MSL doit se poser dans un des endroits où on a découvert qu'il y a des argiles. Pourquoi ? Parce que l'objectif premier de cette mission MSL, c'est justement d'essayer de comprendre si cette planète a été un site d'exobiologie passée, c'est-à-dire est-ce que la vie a pu démarrer. Et on sait maintenant que, on ne sait pas si bien sûr ça s'est passé, mais on sait que si ça s'est passé, les meilleurs témoignages de ça, on les trouvera dans ces terrains-là.
Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas cherché aux bons endroits.
On n'a pas cherché aux bons endroits, c'est ça qui est extraordinaire. Aucun des engins qui se sont posés actuellement s'est posé dans un endroit qui a gardé la trace de cette époque extrêmement ancienne où l'eau aurait pu être stable à la surface de Mars et où Mars aurait pu avoir des conditions d'environnement où il y avait peut-être tous les ingrédients qui étaient sur la Terre à ce moment-là, c'est-à-dire de l'eau, en présence de roches, en présence de peut-être les ingrédients venant des continents avec des phosphates et d'autres minéraux ou d'autres phases qui auraient pu permettre à des phases carbonées d'évoluer.